Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Entretien journalistique. Bienvenue donc à cet épisode 15 de notre série Entretien journalistique, des entrevues avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je reçois Mick Côté. Bonjour, Mick.
Bonjour.
Alors, Mick, vous êtes chef des nouvelles numériques à la presse canadienne depuis déjà un peu plus d'un an. Vous avez été précédemment à The Gazette. Évidemment, vous êtes journaliste. Parlez-moi un peu de votre parcours. Qu'est-ce que vous êtes d'abord amené à The Gazette?
Oh mon Dieu, ce qui m'a amené à la Gazette, premièrement, c'est mon déménagement à Montréal. Je suis originaire d'Halifax, en Nouvelle-Écosse, où j'ai fait mes études en journalisme, puis ma maîtrise aussi en entrepreneuriat. Puis en déménageant ici, sur un coup de tête, j'ai décidé justement de me lancer dans le journaliste assez, disons, traditionnel. Puis la Gazette a été une de mes premières embauches.
Donc vous avez été, entre autres, excusez mon anglais, engagement editor, donc histoire de développer la présence en ligne du journal, du quotidien. Est-ce que c'était déjà quelque chose où vous disiez, j'ai envie de développer cet aspect-là, d'aller voir vers le journalisme un peu plus numérique que le journalisme en ligne?
C'est-tu quoi? Je pense que ça finit par être une décision un peu faite par mon subconscient, parce que j'ai réalisé qu'en fait, la majorité des boîtes journalistiques au Québec, du moins il y a à peu près 6-7 ans, n'avaient pas beaucoup de rôle numérique. On est encore en transition assez du traditionnel, justement, à un journaliste plus numérique, plus engagé aussi en ligne. Puis j'ai décidé de me faufiler là-dedans comme étant mon créneau, puis... essayer de pousser ça plus fort. Puis en rentrant justement à la Gazette avait engagé ce qu'on appelait un social media editor dans ce temps-là, qui était strictement pour les choses comme Facebook, Twitter, assez de base. Puis plus ça allait, plus on a développé justement un programme complet d'engagement du lectorat.
Bon, vous êtes ensuite devenu producteur exécutif adjoint, toujours à la Gazette, donc entre 2014 et 2017. Et maintenant, donc depuis mars 2017, vous êtes, comme on le disait précédemment, chef des nouvelles numériques à la presse canadienne. Ce que j'aimerais savoir, en fait, comment est-ce qu'on passe de Gazette à la presse canadienne?
On se fait approcher. en fait, ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que la position était vacante, puis le directeur de l'information, Jean-Philippe Pinault, est venu me chercher à la suite de quelques recommandations de personnes qu'on a dans nos réseaux. On a eu un entretien ensemble, ça a été assez rapide, puis tout d'un coup, c'est ça, je me suis ramassé à la presse canadienne.
Oui, justement, il y a eu une transformation ces dernières années à la presse canadienne. Il y a eu Jean Roy qui était là pendant quelques années auparavant, qui a pris sa retraite. Donc, Jean-Philippe Pinault qui est arrivé, qui est embauché comme grand patron. Bon, on vous a embauché ensuite comme chef de nouvelles numériques. Est-ce que c'était pour justement concrétiser ce virage numérique?
En effet, oui. C'est sûr que la presse canadienne doit un peu refléter aussi le besoin de l'industrie puis les développements de l'industrie. Jean-Philippe, justement le directeur de l'information, a une vision très aiguisée de ça, d'où l'agence de nouvelles, l'agence de presse doit se rendre, quels changements on devrait faire. M'engager, moi, en fait, c'était une manière aussi de voir, OK, tu sais, une personne qui a travaillé dans un peu tout, en français, en anglais, qui a travaillé beaucoup, justement, sur les médias sociaux, sur Internet. Puis, mon expertise se trouve un peu plus aussi dans la création d'articles qui sont plus faciles à lire, qui sont vraiment bâtis alentour d'un lectorat numérique. Donc, ensemble, on travaille là-dessus, justement, pour moderniser en réalité les processus de travail, mais aussi le genre d'article ou le genre de couverture qu'on fait.
Bon, vous parliez de travailler en français, en anglais. Évidemment, votre poste actuel est en français. The Gazette, c'était bien sûr dans la langue de Shakespeare. Pourquoi avoir... Bon, c'est peut-être pas vous qui aviez l'idée à la base, mais ce changement vers le français, est-ce que c'était quelque chose que vous vouliez faire?
Non, à vrai dire, j'y avais pas vraiment pensé. J'ai travaillé en anglais depuis le début de ma carrière, depuis ma maîtrise, depuis mon bac et ma maîtrise, en fait. J'ai travaillé pour CTV à Halifax, j'ai travaillé pour CBC ici à Montréal. Je me considérais plutôt comme journaliste anglo qui a une maîtrise de la langue française, évidemment. C'est sûr que c'était pas... J'ai eu un petit stress là, avant de, je veux dire, mon français était un petit peu rouillé avant d'arriver. J'avais un petit peu à apprendre ou à réapprendre du moins avant de me lancer vraiment tête première là-dedans. Mais l'apprentissage s'est fait, ben, c'est même pas un apprentissage en réalité, là, c'est juste un rappel. C'est fait assez rapidement. Puis j'étais déjà très conscient des médias francophones ici au Québec, évidemment, que je lis quotidiennement. Fait qu'avoir affaire avec eux, connaître leurs publications, justement, ça, c'était pas un problème à la base.
Et d'ailleurs, justement, bon, on parle assez régulièrement de cette un peu de la bulle des médias francophones au Québec, certainement. Bon, les médias anglophones étant peut-être plus facilement connectés au reste du pays et au reste du continent de par, bien sûr, leur langue de fonctionnement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté qui avait effectivement, bon, un style, un univers différent, les fameuses deux solitudes qu'on retrouverait dans ce cas-ci dans les médias?
Ouais, je dirais pas nécessairement que c'est une affaire de deux solitudes. C'est pas, je pense pas que ce soit nécessairement un impact, un chiffre de culture entre les deux. Ce que je remarque plutôt, c'est que vu que le lectorat est vastement différent, vu que le Québec est plutôt l'électorat québécois est plutôt contenu dans la province. C'est sûr qu'évidemment, on parle à des personnes francophones aussi dans d'autres provinces, dans d'autres régions du monde. Mais c'est ça. D'une part, je crois que c'est plus facile de viser ce lectorat-là, justement, quand c'est une publication qui les recherche. D'une autre part, je pense que parfois, comme tu viens de le dire, c'est qu'on se retrouve un peu dans une bulle où on oublie d'innover, où on est un peu plus à l'arrière de l'innovation. Je pense qu'il y a deux côtés à ça. Il y a de un qu'on est capable de prendre un peu de recul pour voir si les expériences des autres personnes, des autres publications fonctionnent bien. Puis après ça, les modifier pour s'y adapter. Mais on n'est pas tout le temps non plus sur la pointe de l'aiguille par rapport aux innovations médiatiques.
Permettez, on va revenir. Bon, on parlait de la question de l'innovation, on parlait de la question de nécessité de se démarquer, évidemment, bon, que ce soit au Québec ou ailleurs dans le monde. Est-ce qu'on peut tracer des parallèles entre, bon, la présence en ligne de Gazette que vous avez aidé à développer et la présence en ligne de la presse canadienne, quand vous êtes arrivé en poste, peut-être?
Les deux publications sont tellement vastement différentes. Premièrement, la presse canadienne n'est pas une publication en soi-même. Donc,
mais effectivement, c'est une agence de presse qui va vendre des textes à d'autres médias.
Exactement. Donc, la prémisse est un peu différente par rapport aux deux. Puis, le but de l'organisation aussi est différent. Donc, c'est un petit peu dur de pouvoir comparer justement les processus d'innovation, non seulement du processus de travail dans la salle de rédac, puis du système de publication, par exemple. Entre les deux. Ce qui est certain, c'est qu'avec la presse canadienne, en ce moment, ce qu'on est vraiment en train de faire, c'est de revoir, comme je dis depuis tantôt, le processus de travail de nos journalistes, des bureaux de traduction, etc., afin de moderniser, puis de pouvoir subvenir justement aux besoins de nos clients, ce qui est important, mais aussi de pouvoir offrir des articles, des sujets qui sont plus variés. Pouvoir rentrer dans la petite bulle où il pourrait avoir un petit manque ou une nécessité par rapport à ce que nos clients ont besoin.
Est-ce qu'on parle d'embauche supplémentaire ou est-ce qu'on parle simplement, est-ce qu'on parle surtout de diversification de la couverture ou est-ce qu'on dit, bon, ben, on va embaucher 2, 3, 4, 5 journalistes de plus pour justement offrir ce contenu diversifié?
En ce moment, ce qu'on regarde de plus en plus pour la presse canadienne, dans le moment même, dans le moment présent où on se parle, c'est vraiment plus de voir comment on est capable de réadapter nos processus de travail avec l'équipe qu'on a, parce qu'on a une équipe qui est hyper capable, mais qui est un peu... qui est sous le poids, en réalité, de processus de travail qui sont un peu, disons-le, archaïques, parce que, justement, le système d'une agence de presse, puis on l'a vu, je suis allé visiter des Associated Press à New York, par exemple, pour voir comment eux travaillaient, c'est des systèmes semblables, tu sais, on n'a pas de publication nous-mêmes, mais on doit quand même savoir qu'est-ce que les clients ont besoin, qu'est-ce que les autres publications qui achètent notre contenu ont besoin. Mais en même temps, on fait des promesses que ça fait, tu sais, admettons, des articles que ça fait très longtemps qu'on fait ou un style de couverture qu'on fait depuis des années. Là, c'est un peu le temps de revoir, OK, ben est-ce qu'on le fait correctement? Est-ce qu'on utilise des processus qui sont utiles? Est-ce qu'il y a une manière à moderniser ça ou à le rendre plus intéressant pour un lectorat? Est-ce qu'on peut moderniser non seulement la manière dont on prépare notre contenu, mais aussi la manière qu'on publie. Fait qu'on est en train de faire, en réalité, un peu faire exploser la boîte pour voir comment on peut la remettre en morceaux avec ce qu'on a en ce moment.
J'imagine que vous êtes, c'est un peu l'idée aussi de vous engager au départ, c'est-à-dire un peu aller brasser la cage, prendre une expérience qui vient de l'extérieur, puis de dire, on va prendre un regard neuf, puis on va justement s'ouvrir aux différentes possibilités là, d'innovation puis de transformation.
Puis la chose qu'on remarque, c'est qu'une agence de presse aussi, on le voit, avec The Associated Press, on le voit avec nous, on le voit avec Reuters, c'est que le concept d'une agence de presse est nécessaire. Mm-hmm. Beaucoup de publications se basent sur la couverture justement pour pouvoir remplir des trous, pour pouvoir booster, si vous me permettez le mot, leur couverture en général. Mais c'est important pour nous aussi de revoir un peu nos processus. Parce que si je crois vraiment qu'une entreprise en général, si l'entreprise ne se remet pas en question à chaque 3-4 ans pour voir est-ce qu'on fait les choses de la meilleure manière possible, est-ce que ça fait du sens dans la réalité présente, si on ne fait pas ça, ben on risque de retomber en arrière un petit peu. Donc, mon rôle, c'est vraiment de venir et de dire, OK, de faire une analyse, premièrement, d'où est-ce qu'on est rendu, puis de pouvoir essayer de jouer au visionnaire un peu, puis de dire, OK, on pourrait s'en aller dans une position qui est plus semblable à ça, où on pourrait en faire plus, on pourrait en faire moins, un peu revisiter ça, évidemment avec l'équipe entière, là, je suis pas le seul à faire ça, heureusement, mais c'est un peu la base de mon rôle.
Parliez de l'importance des agences de presse pour les autres médias, pour les autres, dans ce cas-ci, vos clients. Je pense qu'on pourrait peut-être même arrêter d'en parler parce qu'on en parle tellement. La fameuse crise des médias, les médias qui ont manque de fonds, de sous, qui vont couper justement leur couverture, qui vont peut-être justement laisser ça aux agences. Est-ce que vous constatez qu'il y a une opportunité à ce moment-là de dire, les autres médias, par exemple, Le Devoir, Radio-Canada, la presse, moi, ils n'ont pas nécessairement les moyens de couvrir cet événement-là en particulier. Nous, justement, on a quelqu'un qui peut aller faire spécifiquement ça, quitte à laisser peut-être certains sujets qui vont être mieux couverts par d'autres, par vos clients, de dire ceux-là, envoyez vos propres journalistes, et nous, on va s'occuper envoyez vos journalistes, par exemple, couvrir le sujet A et nous, on va s'occuper de B, de C, de D et compagnie.
On est constamment en conversation avec les publications qui nous utilisent, évidemment. C'est sûr que le mandat de la presse canadienne ratisse assez large côté provincial. Mm-hmm. On regarde vraiment plus le Québec en gros. C'est sûr que, mettons, un événement local qui se passe à Valérie Plante, disons, qui parle des pitbulls, à moins de pouvoir prendre un angle qui est plus provincial pour que l'ensemble de nos clients puissent en ressentir les effets, avoir un certain bénéfice à utiliser nos articles. C'est sûr qu'on va prendre ça en considération. Évidemment, si on se fait dire par une grande majorité de clients, on a trop d'événements aujourd'hui, on n'est pas capable d'aller à telle chose, c'est sûr que c'est des conversations que notre pupitre, puis aussi que le directeur de l'information va avoir avec ces personnes-là pour voir est-ce qu'on est capable de libérer des ressources afin d'aller couvrir ces choses-là.
Je pense qu'on parle, depuis quelques minutes, beaucoup du côté plus écrit, peut-être, de la presse canadienne. Évidemment, un volet radio, il ne faut pas l'oublier. J'imagine que ce volet-là fait également partie de l'effort de transformation puis de modernisation, parce que, la radio a beau être là depuis très longtemps, il faut quand même pas l'oublier, puis ça reste une partie importante des activités de la presse canadienne.
En effet, oui. Tout récemment. En mars dernier, Catherine Moffett s'est joint à nous comme adjointe au directeur de l'information, qui surtout a été mise en charge, c'est-à-dire du processus de radio, la modernisation de la radio. Plus à jour sur les documents que moi là, par rapport à ça, mais c'est évident qu'on commence à regarder aussi, même de manière technologique, ce qui est plus mon côté, comment faire pour permettre à nos reporters, par exemple, d'envoyer des clips sonores plus rapidement au pupitre, comment pouvoir déployer ou du moins publier plus de sons sur nos systèmes pour nos clients. Donc, on est vraiment... C'est certain que, comme j'ai dit, la boîte au complet, la salle de rédaction complète est en processus de changement assez rapide aussi. Mm-hmm. Là, je veux dire, ça fait à peu près deux ans que je suis là, mais déjà, les changements qu'on a réussi à faire par rapport au processus de travail est assez impressionnant.
Presse canadienne, évidemment, vend à des médias, vend à des entreprises. Est-ce qu'il y a des moments où vous sentez que vous êtes tiraillé entre les deux un petit peu? Non, pas du tout. Ça, vous faites, ben en fait, on ne voit pas évidemment l'audio, on entend, mais vous faites non de la tête pendant que vous répondez.
Ouais, non. Non, je pense que tout le monde le sait, puis on le voit dans la salle de rédaction que la tête est vraiment au journaliste.
Mm-hmm.
Le but de notre entreprise, c'est justement d'être une agence de presse, mm-hmm, qui offre de la nouvelle. C'est sûr que des fois, t'sais, on n'a pas, ça, c'est pas tout le temps la nouvelle avec le plus de couleurs, avec le plus d'ambiance, etc. Mm-hmm. Mais notre mandat, justement, c'est de donner de l'information aux gens.
On offre la base, là, ce qui est important de savoir.
C'est sûr que je pense qu'on essaie de pousser un peu plus loin que la base. Oui. Plus ça va, plus on essaie de se consacrer à ça. Justement, des features sur lesquels on peut travailler pendant plusieurs jours, voire des semaines. Mais le mandat initial que nous avons, c'est justement de donner de la nouvelle de la manière la plus claire possible, le plus rapidement possible, mm-hmm, en étant le plus vrai possible, dans les marges que vous connaissez tous. Puis on se consacre vraiment à ça.
Là, maintenant, j'aurais peut-être une question pour le stratège numérique que vous êtes. On parle beaucoup, évidemment, de présence en ligne, développer occuper l'espace numérique. Est-ce que, selon vous, il est possible de le faire sans s'appuyer sur Twitter, sur Facebook? Parce que c'est des groupes qui sont partout. Et bon, on se dit, bon, ben, on passe par ces canaux-là pour publiciser notre contenu, pour le diffuser. Mais bon, on sait tout ce qui se passe avec l'algorithme de Facebook, qui n'est pas toujours l'ami des journalistes. La question, bon, Twitter et le contenu haineux et des choses comme ça. Est-ce que moyen de s'épanouir, si on veut, dans l'univers numérique sans devoir s'appuyer sur les réseaux sociaux?
En effet, il y a trois tendances qu'on voit qui semblent revenir, mais qui appartiennent un peu à ce qu'on voyait avant les réseaux sociaux. Un en particulier, c'est justement le SEO qui est très de base, là, s'assurer d'avoir les mots-clés dans les titres, etc., afin de permettre aux moteurs de recherche de nous retrouver plus rapidement. Ça paraît assez de base, mais beaucoup de publications, surtout les publications américaines, le Washington Post, entre autres, redoublent d'ardeur là-dessus, afin de se classer plus haut, justement, dans les systèmes de recherche. Une autre chose qu'on voit de plus en plus, les infolettres, qui semblent fonctionner super bien, c'est une petite parenthèse, là. Pendant un bout de temps, aux États-Unis, ce qu'on voyait, là, les deux dernières années, les rôles clés dans les groupes d'éditeurs pour engagement editor, disons, même les positions pour lesquels les gens pouvaient postuler, c'est surtout des postes d'éditeurs d'infolettres. C'est une chose qu'on voyait de plus en plus.
Puis, parce que, bon, on parle autour des infolettres de CNN, bon, les infolettres de Politico. Je pense qu'effectivement, tous les grands médias américains, bon, Radio-Canada également son infolettre, Le Devoir aussi, si je ne me trompe pas. Donc, on semble revenir un peu à Internet 1.0, où on avait le fameux... justement, le fameux courriel à tous les jours avec l'essentiel.
Je pense que les gens commencent à réaliser qu'il y a un bénéfice à faire un peu de one-on-one, si vous voulez. Mm-hmm. Mais une autre tendance qui me fait, pas pour dire me fait rire, mais que je trouve particulièrement intéressante, puis on le voit justement avec l'expansion du New York Times au Canada, c'est la création d'événements très, très réels, en personne, qui poussent aussi l'identité de la marque sur un lectorat potentiel. Donc, par exemple, je parle l'éditeur bouffe, si vous voulez, nourriture du New York Times avait fait une entrevue avec David McMillan du Joe Beef au Théâtre Corona.
Mm-hmm.
C'est un événement en personne qui semble pas nécessairement être une expérience journalistique, mais qui l'est en réalité, puis qui permet aussi à l'entreprise de s'épanouir un petit peu plus dans le côté plus communautaire. Puis on voit beaucoup de plus en plus ce genre d'approche où une publication va se consacrer plutôt au sens communautaire, au centre activité de présence vraiment physique, si vous voulez, d'une marque, ce qui semble un peu étrange, mais on dirait qu'on retourne un peu à l'arrière, côté « faites-nous confiance, on est là, on est présent, vous nous voyez », mais ça a un effet qui est quand même super positif par rapport aussi au nombre d'abonnements, ou tu sais, moi, par exemple, j'étais, je vais vous l'admettre, là, j'étais pas un grand adepte du New York Times, mais après être allé justement au Théâtre Corona, voir comment ça marchait, OK, là, j'ai un petit pincement pour me dire, ah, c'est cool, tu sais, il se force à faire telle affaire. Fait OK, là, tu es suivi sur Twitter, puis là, tu commences à lire après ça, ou tu t'abonnes, mettons, à la balado de The Daily. C'est fou de voir comment on est capable de s'infiltrer un peu dans le quotidien des gens en faisant partie justement de la présence.
Est-ce que ça se pourrait que, bon, qu'après des années de numérisation puis de dématérialisation de l'information, de dire, bon, ben, tout était en ligne, et là maintenant on revient à une sorte de justement présence physique, de dire, au lieu de commander quelque chose en ligne, par exemple, ou d'aller voir un événement en ligne qu'on va écouter sur Twitch, sur Netflix, ou peu importe, on va se déplacer parce qu'il y a des gens qui sont là, parce que ces gens-là, on les connaît. Plutôt que de dire, on va les regarder par écran interposé, on va aller les voir en personne.
Ça, je ne sais pas. Mais je pense que on arrive à un point dans le monde de la publication où ce que l'écran, c'est plus nouveau.
Mm-hmm.
Nos cellulaires, ça fait des années qu'on les a. C'est soit on les change annuellement, disons, oui. Ben, du moins, moi, je le fais. Pas parce que je veux, tu sais, ils cassent tout le temps. Mais je pense qu'on arrive à une étape où ce que on a poussé beaucoup, beaucoup pour le numérique, pour le changement, etc. Je pense que la majorité des médias traditionnels ont... Tout le monde a du travail à faire, évidemment. Là. C'est pas le même modèle d'entreprise qu'on avait auparavant, c'est évident. Il reste beaucoup de travail à faire par rapport, justement, au côté monétaire. Mais le côté publication n'a plus beaucoup de secrets. On est encore capable de développer des nouveautés, d'essayer d'être plus engagé par rapport au lectorat, etc. Mais je pense que les gens commencent à réaliser, même le lectorat commence à réaliser que c'est plus nouveau d'avoir son cellulaire à la main. Puis on commence à réaliser qu'on a un peu mis de côté, je pense, l'aspect physique des gens, oui. Tu sais, le côté très humain qui existe encore malgré justement la petite boîte d'aluminium qui est adhérée à nos mains depuis à peu près 10 ans.
Je crois que vous aviez une troisième tendance. J'ai peut-être interrompu trop souvent durant la...
J'avais l'infolette.
L'infolette, les interactions en personne. Et peut-être qu'il y en avait seulement deux. C'est pas plus grave que ça. Mais bon, non.
Ouais, je pense que. Non, ouais, c'est.
Mais bon.
C'est sûr qu'il y en a une troisième, là, mais on va revenir plus tard.
On fera un addendum à la balado, au balado. D'ailleurs, c'est une grande discussion. Peut-être que vous avez ça. Je sais qu'il y a le guide du style, le guide d'écriture de la presse canadienne. Est-ce qu'on dit un balado ou une balado? Je pense qu'à Radio-Canada, ils ont des débats enflammés sur la question.
C'est balado diffusion.
Oui. Mais il y avait eu tout un argumentaire là, de l'OQLF, l'Office du Québécois de la langue française, et ça semblait logique, même si c'était un peu compliqué.
Ma tête d'ancien anglo.
Voilà, c'est ça, en anglo, ça passe pas la tête. En anglo, ça passe pas la tête. Voilà. Mes côtés, chef des nouvelles numériques à la presse canadienne, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci de m'avoir invité.
Et ceux qui nous écoutent, merci également d'avoir été là. Retrouvez l'ensemble de nos épisodes sur, bien sûr, pieuvre.ca, également sur SoundCloud et sur iTunes. Merci, à la prochaine.